Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce mardi 26 août 2025, l'Australie lève le ton face aux droits de douane américains. Australia Post a décidé de suspendre l'expédition des colis. L'opposition dénonce ce choix. Les États-Unis, eux, s'attaquent à la Chine et menacent de nouvelles surtaxes à hauteur de 200%. Cette fois, c'est l'exportation d'aimants qui pose problème. À Gaza, 20 morts, dont 5 journalistes dans les frappes sur un hôpital. Le Premier ministre israélien déplore un accident tragique. Et en France, François Bayrou en sursis. Le Premier ministre va se soumettre à un vote de confiance des députés, un sacré coup de poker qui aura lieu le 8 septembre. Australia Post annonce ce matin la suspension temporaire de certains envois de colis à destination des États-Unis et de Porto Rico. Une décision qui prend effet dès aujourd'hui en réaction aux nouvelles règles américaines sur les droits de douane et les tarifs d'importation. Les courriers ordinaires, les documents, les cadeaux d'une valeur inférieure à 100 dollars américains ne sont pas concernés. La Poste australienne précise que cette mesure s'aligne sur celle prise par d'autres opérateurs postaux dans le monde et elle affirme travailler avec un prestataire reconnu par les douanes américaines afin de trouver une solution rapide au problème. Levée de bouclier de la part de l'opposition, on le disait en titre, qui accuse le gouvernement non seulement de maltraiter à nouveau sa relation avec les États-Unis, mais aussi de faire du mal aux petites entreprises. On écoute Tim Wilson, il est le porte-parole de l'opposition pour les petites entreprises.
That raises serious questions ultimately about the claims that the Albanese government has the relationship between Australia and the United States sorted. So let's hope the stability and calm prevails, that we get an outcome, because small businesses will be the ones who pay the price for a tariff on declines in the volumes of small packages going through to the United States.
Et dans le même temps, Australia Post annonce le recrutement de plus de 3500 travailleurs saisonniers pour faire face à la période des fêtes. L'entreprise propose une rémunération allant jusqu'à 38 dollars de l'heure. L'an dernier, le service postal avait distribué près de 103 millions de colis dans les semaines précédant Noël. À partir d'aujourd'hui, les employés des petites entreprises ont légalement le droit d'ignorer appels, mails et messages professionnels en dehors de leurs horaires contractuels. C'est l'entrée en vigueur des lois sur le droit à la déconnexion pour les petites structures. Ces droits étaient déjà accordés, rappelez-vous, aux salariés des grandes entreprises depuis exactement un an. C'était le 26 août 2024. Eh bien, désormais, la loi s'applique aussi aux entreprises de 15 salariés et plus. Lyndon Burke, avocat spécialisé et associé fondateur du cabinet Burke Mongan Law, rappelle que le droit à la déconnexion n'est qu'une des nombreuses réformes majeures du droit du travail en 2025.
Look, at the end of the day, these laws aren't to punish employers or reward employees. What they're there to do is to provide a work-life balance and stop employee burnout, because we're seeing that productivity is unfortunately falling in this country, and that is potentially because people can't disconnect.
Un groupe des principaux économistes australiens estime qu'un objectif de réduction des émissions plus ambitieux pourrait stimuler le PIB d'Australie de plusieurs dizaines de milliards de dollars et créer des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires. Alors je m'explique plus précisément, c'est Deloitte Access Economics qui estime que si le gouvernement fédéral choisissait de réduire les émissions de 75% d'ici 2035 au lieu de 65%, eh bien le PIB, le produit intérieur brut, pourrait augmenter de 370 milliards de dollars et 69 000 emplois supplémentaires seraient créés. Les experts expliquent qu'un objectif plus ambitieux permettrait d'accélérer les investissements, de renforcer la compétitivité des exportations australiennes dans un monde en pleine décarbonisation. L'autorité sur le changement climatique examine actuellement, on le rappelle, sa recommandation au gouvernement sur l'objectif pour 2035 qui devrait se situer donc entre 65 et 75%. De son côté, le sénateur du Parti national Matt Canavan appelle à relancer le débat au sein de l'opposition fédérale sur l'objectif du zéro émission net. Il compte utiliser la réunion conjointe des deux partis, Liberal et National, prévue aujourd'hui pour remettre la question sur la table. Selon lui, cet objectif avait été imposé par l'ancien Premier ministre Scott Morrison sans véritable discussion interne et il affirme que la stratégie de neutralité carbone donnerait beaucoup trop de pouvoir au gouvernement sur la vie des citoyens. Pour Matt Canavan, refuser d'ouvrir ce débat équivaut tout simplement à fuir le problème. Écoutez.
So it's like anything in life. When you've got an issue that's causing a bit of tension, where there's a bit of disagreement, you might be arguing with your wife about what you should do, the best thing to do is talk it out. Don't sweep a difficult issue under the carpet. Don't think it will just go away. Actually tackle it, talk it out with everybody, come to a view, and we can move on as a united force.
Ces déclarations du sénateur Canavan interviennent alors que se poursuit le débat sur le futur objectif de réduction des émissions pour 2035. On vient de le dire à l'instant, le gouvernement doit dévoiler ces chiffres dans les prochaines semaines. Toujours sur le sujet du climat, le ministre fédéral de l'Environnement, Murray Watt, assure que les Australiens n'auront pas à attendre les réformes accélérées de l'environnement pour obtenir des autorisations plus rapides de construction de logements. À la suite du sommet économique de Canberra la semaine dernière, le gouvernement a promis d'accélérer ces réformes et selon Murray Watt, les discussions ont montré un large soutien en faveur des protections environnementales renforcées, de procédures d'approbation ou de rejet plus rapides, plus simples, ainsi que d'une plus grande transparence dans la réglementation. Le ministre précise que le gouvernement fera le maximum avant même la présentation du projet de loi au Parlement, attendu d'ici à la fin de l'année.
There are changes that we can make before the laws get changed, and then there, of course, are a whole range of changes that can be made under the reforms. What we're trying to do before the laws get changed is prioritise our resources so that we are focusing more on housing approvals and getting them done much more quickly.
Retour à l'international et le président américain Donald Trump menace de relever massivement les droits de douane contre la Chine, plus de 100% si Pékin ne coopère pas sur l'accès aux aimants en terres rares, produits sur lesquels la Chine dispose d'un quasi-monopole. La Chine est en effet le premier producteur mondial de terres rares qui permettent notamment de fabriquer des aimants essentiels à l'industrie automobile, l'électronique ou encore l'armement. Donald Trump insiste, les aimants sont selon lui non négociables.
They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. So it'll take us probably a year to have them. We're heavy into the world of magnets now, only from a national security standpoint.
Ces déclarations de Donald Trump interviennent après une période d'accalmie pourtant entre les deux plus grandes économies mondiales. L'imposition de nouveaux tarifs douaniers ayant été repoussée au moins jusqu'en novembre, le président américain a par ailleurs annoncé son intention de se rendre en Chine peut-être d'ici la fin de l'année. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que son gouvernement veut obtenir au moins 1 milliard de dollars de ses alliés afin d'acheter des armes aux États-Unis. Cet achat doit se faire dans le cadre de l'initiative de l'OTAN baptisée Prioritized Ukraine Requirement List, mise en place après un accord entre le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche le mois dernier. Volodymyr Zelensky précise qu'il rencontrera l'envoyé spécial américain Keith Kellogg pour discuter d'une possible rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Un tragique accident, c'est par ces mots que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qualifie la frappe qui a touché un hôpital de Gaza. Bilan 20 morts, dont 5 journalistes de Reuters, AP et Al Jazeera. Benjamin Netanyahou affirme que la guerre est menée contre le Hamas et rappelle, je cite, l'importance du travail des journalistes, du personnel médical et des civils. Il assure qu'une enquête approfondie a été ouverte par l'armée. L'incident, bien sûr, suscite une vague de condamnations à l'international, notamment de la part du porte-parole de l'ONU. On l'écoute.
The Secretary General recalls that civilians, including medical personnel and journalists, must be respected and protected at all times. He calls for a prompt, impartial investigation into these killings. He reiterates that medical personnel and journalists must be able to perform their essential duties without interference, without intimidation, and without harm, and in full accordance with international humanitarian law.
Le comité pour la protection des journalistes a condamné cette frappe, la qualifiant de partie d'un schéma délibéré d'attaque contre les professionnels des médias et demande une responsabilité internationale. L'organisation a recensé au moins 197 journalistes et travailleurs des médias tués pendant la guerre, 189 Palestiniens tués par Israël à Gaza. Et enfin, l'actualité française, c'est le Premier ministre en sursis, on le disait en titre. François Bayrou se soumettra à un vote de confiance dans 2 semaines, un vote de confiance de l'Assemblée sur son projet de budget 2026. Les députés vont être interrogés sur le danger vital, je cite, que représente le surendettement du pays. Du RN à LFI, tous les partis d'opposition ont déjà dit leur intention de faire tomber le gouvernement. Valérie Gasse pour Radio France Internationale.
François Bayrou a pris tout le monde de court. Sa décision d'engager la responsabilité du gouvernement le 8 septembre vise à montrer aux Français à quel point l'heure est grave. Avant de faire cette annonce, le Premier ministre a passé une demi-heure à expliquer pourquoi la dette représente un danger immédiat qui concerne tous les Français. Chiffre choc à l'appui, je le cite, chaque heure depuis 20 ans a augmenté la dette de 12 millions d'euros. François Bayrou a aussi insisté sur le poids du remboursement de la dette qui représentera, si on ne fait rien, en 2029, 107 milliards d'euros. Une clarification nécessaire selon lui après un été où le débat s'est focalisé sur les mesures qu'il avait annoncées le 15 juillet dernier, notamment la suppression de 2 jours fériés. Alors pour recadrer les choses, le Premier ministre a décidé de devancer une éventuelle motion de censure promise par LFI et le RN et de demander un vote de confiance aux députés sur la question de l'enjeu de la dette. François Bayrou joue sa dernière carte.
Je me battrai bec et ongles et le gouvernement se battra en prenant tous les risques pour que ce danger soit évité par le seul moyen disponible qui est à mes yeux la prise de conscience des Français.
Une manière de dire moi ou le chaos et de sortir par le haut s'il n'obtient pas la majorité.
Allez, sans transition, on passe à la météo en Australie. Il y a des averses à Perth, il fait 16 degrés, 18 à Adelaide, 18 à Melbourne, 18 à Hobart, 20 à Canberra, partout il pleut, du soleil à Sydney, 23 degrés, à Newcastle, 23 degrés également, Brisbane, des nuages, 24, Granbow à Cairns, 29 et des nuages à Darwin, il fait 32 degrés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.